Bienvenue sur le message de la semaine de Home Lausanne. On espère que celui-ci t'encouragera et t'équipera. Pour plus d'informations sur notre église, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.eglisehome.com.
Traditionnellement, il y a une salutation à l'époque de Pâques où on célèbre, le dimanche de Pâques, on célèbre la résurrection de Jésus-Christ. Et plusieurs, j'en suis sûr, vous connaissez cette salutation. L'un dit « Il est ressuscité » et l'autre lui répond « Il est vraiment ressuscité ». Il est ressuscité ?
Il est ressuscité.
Magnifique. Alors, je regardais, puis c'était intéressant, micro-trottoir autour de Pâques. Qu'est-ce que c'est que Pâques ? Beaucoup de personnes avaient plein de réponses à proposer. Certains disaient, c'est la famille Pâques. C'est la famille, on va se retrouver en famille, on va manger en famille, on va prendre du temps en famille. D'autres disaient aussi, c'est le chocolat. Je ne sais pas si vous saviez, mais le chocolat, les deux moments où on en vend le plus, c'est Pâques et Noël. C'est des tonnes de chocolat qui sont vendues dans ces périodes-là. D'autres encore, c'est la chasse aux œufs. Pâques, c'est le lapin, la chasse aux œufs, la poule. Certains ont dit la poule, je ne sais pas où, comment, quoi, mais ok, la poule. Et puis, quelques personnes ont conscience que c'est aussi lié à la foi, et en particulier la foi chrétienne. Étonnamment, de moins en moins de gens savent qu'est-ce qu'on célèbre à Pâques. Alors, on va se plonger un peu dans ce thème ce matin. On a lu déjà le texte vraiment qui donne tout le cadre de la fête de Pâques dans Luc. Mais parce qu'on lit, je crois, jamais assez la Bible, je vais vous proposer de lire à nouveau, mais cette fois-ci dans Matthieu. Et puis, pour toute la suite du message, là, c'est un challenge pour vous tous. Il va falloir prendre des notes, parce qu'aujourd'hui, rien ne va s'afficher au-dessus de moi. Alors, si vous voulez pouvoir suivre, marquer les citations, les articulations du message et tout ça, il faudra prendre des notes. Mais pour le coup, je vais vous proposer de prendre vos Bibles à Matthieu au chapitre 28, et on va lire les 10 premiers versets ensemble. Matthieu 28, 1 à 10. Et puis du coup, je vous laisse le temps de cliquer, je vous laisse le temps de tourner vos pages de Bible avant de lire ce texte. Vous verrez, ça semble vraiment extrêmement proche. Il y a des nuances par rapport au texte qu'on a lu au début du culte avec de l'évangile de Luc. Mais on est vraiment dans un texte qui rappelle les mêmes grands événements. Matthieu 28, 1 à 10, et je lis maintenant. Après le sabbat, à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre de devant l'ouverture et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché. » Et allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. Verset 8, elles s'éloignèrent rapidement du tombeau, avec crainte et une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, s'agrippèrent à ses pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « N'ayez pas peur, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » La résurrection de Jésus-Christ. Je crois que d'une façon ou d'une autre, cette histoire, vous en avez entendu parler. Certains, vous l'avez entendu à de nombreuses reprises lors du dimanche de Pâques, justement. Il est ressuscité. D'autres, vous avez vu des vidéos, des films qui nous montrent ces femmes aller au tombeau, le tombeau vide, la rencontre surprenante. D'autres, vous en avez simplement entendu parler, peut-être de loin, peut-être jamais lu directement dans la Bible, mais vous avez entendu dire que ce Jésus-là serait ressuscité. Du coup, vous imaginiez bien que quelque part, il y avait une histoire qui nous racontait cette résurrection. En 2024, dans les pays aux origines judéo-chrétiennes, je crois que ce récit ne surprend plus tellement. Ça ne veut pas dire qu'on le croit, ça ne veut pas dire qu'on sait que c'est autour de Pâques, mais je crois qu'il ne nous surprend plus. Pourtant, j'ai envie de vous proposer qu'à l'époque, c'était un scandale cette histoire. Il y a quelque chose de scandaleux dans ce récit. Le mot scandale, ça désigne généralement un événement ou un comportement choquant. Quelque chose qui nous surprend. Mais ce n'est pas tellement la surprise, c'est plutôt l'idée que ça ne devrait pas se passer comme ça. Ce n'est pas juste, tiens, je suis pris de court. Non, c'est plutôt, non, ce n'est pas normal ce qui vient de se passer. Il y a quelque chose presque d'offensant dans un scandale. Aujourd'hui, quand on pense à un scandale, on pense peut-être à un politicien qui a menti. On pense à un parent qui cache quelque chose. On pense à un prof qui a des propos ou des actions déplacées. Mais plus largement, quand on pense à un scandale, on peut simplement se dire quelque chose qui n'aurait pas dû se passer se produit. C'est un scandale. Récemment, il y a environ un mois, il s'est passé un petit scandale dans le monde du sport. Est-ce qu'il y en a qui font de la natation ici? Ok, une personne, deux personnes, ok. Alors, il y en a une autre qui se cache. Trois personnes qui font de la natation. Vous avez peut-être entendu parler de ça, c'est il y a un mois, c'est vraiment frais. Un gars qui s'appelle Owen Lloyd, un nageur qui a gagné sa course, mais qui a été disqualifié. Il a été disqualifié parce qu'il y a des règles, hein, c'est un sport, il y a des réglementations. Et puis en fait, alors qu'il avait fini sa course et qu'il a gagné, il a fait l'erreur d'aller saluer le deuxième, alors que la course n'était pas tout à fait finie. Il y avait encore des nageurs. Et du coup, il a été disqualifié. Si vous regardez la vidéo, c'est vraiment choquant parce qu'il sort de l'eau, il sait qu'il a gagné, et tout le monde sait, tout le monde l'a. Et puis il voit sur le tableau disqualifié. Et d'un coup, il comprend ce qui se passe, il prend la tête entre ses mains, c'est une course importante. Et ça crée vraiment un scandale parce que le deuxième, du coup, devient premier. Et le deuxième, qui s'appelle Ross Dent, carrément refuse. Et dès sa sortie de l'eau, il dit non, c'est pas juste. C'est pas juste, non. Et puis après, devant les caméras et tout ça, il dit, mais il a gagné, c'était tout à fait correct, il m'a battu, je refuse d'être premier devant lui alors qu'il a gagné la course en fait. À tel point qu'il va même refuser de participer à la cérémonie. Mais c'est comme ça. Le deuxième est devenu premier, c'est scandaleux. Dans ce récit de la résurrection qu'on a lu à deux reprises déjà, je crois que nous sommes aussi face à un scandale. En fait, toute la vie de Jésus, et en particulier ces derniers instants, ces jours qu'on a célébrés dans le week-end de Pâques, sont un scandale. Un homme qui n'a jamais péché, un homme qui a fait du bien partout où il allait, un homme qui a guéri les malades, qui a libéré les captifs, qui a redonné de l'espoir à ceux qui n'avaient plus d'espoir, un homme qui a prêché et vécu un amour radical, un homme à qui son propre procès, trois fois, le juge dit « je ne trouve rien de faux chez lui », que cet homme-là doive mourir d'une mort atroce et indigne, c'est un scandale. Et ce qu'il y a de scandaleux, c'est qu'il l'a fait pour nous. Il l'a fait pour le monde. Il l'a fait pour toutes ces personnes qui se moquaient de lui, qui l'ont craché au visage, qui l'ont rabaissé, qui lui ont fait du mal. Mais il l'a fait aussi pour ses disciples qui le suivaient. Il l'a fait pour moi, il l'a fait pour toi. Il l'a fait pour chaque personne que tu croises. Et ça, c'est un scandale. Il l'a fait afin que quiconque reconnaisse son nom ne meure pas, mais qu'il puisse avoir la vie en abondance et la vie éternelle. C'est une grâce imméritée. À cause de ce que Jésus a fait, on peut vivre une vie que nous ne méritions pas. On a une faveur qui n'est pas basée sur nos actions ou sur nos performances. On est pardonné sans avoir à payer quoi que ce soit pour nos erreurs. C'est un scandale. C'est un acte de grâce, mais c'est un acte scandaleux. Il y a une seule personne qui a dit « Amen ». Je suis assez triste. Je pensais que vous alliez vous manifester, faire des cris de joie, taper des mains, vous lever, danser, dire « Merci Seigneur, c'est un scandale ». Voilà, je pensais ça. Je pensais ça. Mais si cette grâce scandaleuse te laisse indifférent, écoute, prends le temps. Écoute la suite et j'espère que ce message va te réveiller. Si tu n'avais jamais entendu parler de ce scandale qui est appelé la grâce de Christ et que tu es surpris de voir que d'autres, eux, n'ont pas honte de dire « Amen, yes, wouhou » et toutes ces choses-là, juste bienvenue, merci d'être là. Si tu ne comprends pas pourquoi on est comme ça, réjouis de ça, bienvenue d'être là. J'espère qu'à la fin de ce message, tu comprendras davantage pourquoi pour nous Pâques est si important, indépendamment du chocolat ou pas. Indépendamment de la table à laquelle on va se retrouver. On parle de Jésus, puis ce Jésus, ce n'est pas n'importe qui. Je ne sais pas si tu savais que le Time Magazine a dit de lui qu'il était le symbole le plus persistant et évident de pureté, de don de soi et d'amour dans toute l'histoire de l'Occident. Ça, c'est le Time Magazine, les amis. Hein. Ce n'est pas la Bible. C'est pas grave. C'est pas grave. Avec une dizaine de personnes ce matin à 6h45, on commençait une aube pascale dans les rues de Lausanne, où les gens étaient en train de finir leur soirée, où les gens étaient en train de nettoyer et nous on était en train de dire « Seigneur, tu es ressuscité. Qu'est-ce que ça peut signifier pour nous ?» Puis on marchait dans ces rues. Alors croyez-moi, moi je suis ému par cette réalité. Sa mort était un scandale et sa résurrection aussi était un scandale. Pourtant, il l'avait annoncé. Alors j'aimerais voir avec vous trois choses de ce récit qu'on a lu qui doivent nous mettre en mouvement. Et puis, j'aimerais vous donner ça comme une clé, en mouvement. Si vous lisez tout le chapitre de Matthieu 28, on n'a lu que la moitié, hein, il y a 20 versets, on a lu les 10 premiers versets ensemble. Si vous lisez Matthieu 28 en entier, prenez le temps de regarder tous les verbes de mouvement qu'on trouve. C'est impressionnant. On voit les femmes qui allèrent au tombeau. On voit un ange qui descend du ciel. On voit les femmes qui entrent dans le tombeau, qui sont ensuite invitées à aller vite, dire aux autres la bonne nouvelle. Ces femmes s'éloignent rapidement. Jésus vient à leur rencontre. Les femmes s'approchèrent à nouveau l'invitation. Allez dire aux autres. Et vous continuez tout le chapitre de 28 et vous allez voir constamment une idée de mouvement. Ça continue comme ça jusqu'à arriver au moment clé, le verset le plus connu de Matthieu 28, qui est verset 19, qui dit « Allez ». Faites de toutes les nations des disciples. Mais cette notion d'aller, elle n'est pas nouvelle dans le chapitre de Matthieu 28. Elle est là tout du long, en fait. Tout du long, on voit ce mouvement constant. Et je crois que cette grâce scandaleuse, je crois que ce scandale qu'on doit appeler grâce, doit nous mettre en mouvement. C'est un scandale, c'est sûr, mais c'est une grâce aussi. Et ce scandale appelé grâce doit nous mettre en mouvement. Alors on va voir ça, on va voir trois mouvements pour se mettre en route ce matin. Ça va pour vous ? Trois mouvements. Le premier mouvement dit la chose suivante. Allez vers Jésus malgré tout. Allez vers Jésus malgré tout. L'histoire démarre et on est à l'aube du dimanche. On est tôt le dimanche matin, juste avant la résurrection. Et on voit des femmes s'en aller vers le tombeau. J'aimerais vous dire, on s'arrête déjà là. C'est à la fois normal et c'est à la fois surprenant. C'est à la fois normal puis c'est un peu bizarre quand même. Pourquoi je dis c'est normal ? Plusieurs choses, plusieurs indices nous montrent pourquoi elles s'en vont au tombeau. Dans d'autres, on a lu notamment chez Luc, elles ont des aromates, et puis en fait, il y a toute une sorte de rituel lié au deuil. Elles vont préparer le corps pour l'embaumer. Et ça, ce n'est pas surprenant. Ce n'est pas étonnant qu'on aille vers le tombeau, parce que Jésus est mort juste avant que le sabbat commence. Donc, elles ne pouvaient plus rien faire, elles devaient attendre. Puis, dès que le sabbat se termine, elles vont faire ce qu'on va faire normalement. Jusque-là, ce n'est pas surprenant. Par contre, Jésus, les amis, avait créé du trouble. Je ne sais pas si vous le savez. Jésus avait créé du trouble, Jésus avait créé de l'agitation. Le tombeau, il y avait deux choses qui rendent illogique le fait que les femmes se rendent au tombeau. Tout d'abord, il avait été scellé avec une grosse pierre. Donc, de facto, elles n'avaient pas accès au corps. Je ne sais pas si ça surprend quelqu'un. Les femmes, peut-être qu'elles étaient très fortes, peut-être qu'elles avaient préparé pendant le sabbat un mécanisme pour faire rouler la pierre. J'en doute, le sabbat, on ne travaille pas. Mais c'est surprenant. Quelle idée ! En plus de ça, non seulement il y avait une pierre qui était roulée, mais il y avait des gardes. Il y avait des gardes qui rendaient impossible. Les Romains s'étaient assurés, assurez-vous que personne ne touche ce corps. Donc nous, on lit ça, oui, c'est normal. Non, ce n'est pas normal, en fait. C'est surprenant que ces femmes décident d'aller au tombeau. Honnêtement, ça aurait été beaucoup plus logique dans le contexte qu'elles fassent profil bas, ces femmes. Ça aurait été beaucoup plus logique. Les disciples de Jésus, eux-mêmes, l'avaient abandonné massivement dans les jours qui précédaient. Ils étaient partis. Ils ont eu honte. Pierre, qui était le disciple le plus vocal de Jésus, l'avait renié à 3 reprises. Ils ne voulaient rien avoir à faire avec. Ça aurait été tout à fait normal que les femmes se disent « Bon, là, on est mal barré, on aurait vraiment voulu, mais on va rester caché. » Ça aurait été tout à fait normal. Et je crois que ce premier mouvement d'aller vers le tombeau, c'est une clé pour nous. Est-ce qu'on ose aller vers Jésus malgré tout ? Est-ce qu'on ose aller malgré tout ? Parce que parfois, on a des bonnes raisons d'abandonner tous. On a des bonnes raisons de dire « Comme les disciples, on a des bonnes raisons de fuir peut-être. » On a peut-être parfois l'impression que la situation est figée. Il n'y a plus de solution, il n'y a plus de possibilité. Comme un tombeau fermé et gardé. Les médecins ont donné le diagnostic, j'arrête d'embêter Dieu avec ça. J'arrête. J'ai essayé, mais j'y vais plus maintenant. Parfois, on a l'impression qu'il n'y a plus de solution. Parfois, on a l'impression que Dieu ne nous écoute plus ou qu'il ne nous écoute pas. On se dit, ça ne sert à rien de prier pour ça. C'est terminé maintenant. Parfois, on a l'impression que Dieu nous a oubliés. Pourtant, à cause du scandale appelé grâce, l'exemple de ces femmes nous dit, tu peux aller vers Jésus malgré tout. Tu peux aller vers Jésus malgré tout. Qu'importe la situation, tu peux aller vers Jésus. L'exemple des femmes qui vont au tombeau nous rappelle qu'on peut toujours venir vers Jésus. Ça ne dépend pas de ce qu'elles ont fait. Il y aurait tellement de choses à dire sur le fait que c'est des femmes qui vont au tombeau. J'aime tellement ça. Il y a vraiment beaucoup de pépites par rapport à la place de la femme, par rapport à ce que ça signifie que les femmes y vont. On aurait voulu, et sans doute que l'histoire aurait été plus crédible si on avait dit « Pierre se rend vaillamment au tombeau ». Il s'est rendu compte de l'erreur lorsqu'il a renié, et du coup plein de courage, renouvelé. Après un temps de sabbat, il s'en va au tombeau et on aurait tous dit « Yes, vas-y Pierre !» Mais ce n'est pas ce qu'on nous dit. On nous dit des femmes. Et je ne sais pas si tu te rends compte, mais ça ne dépend pas de qui elles sont, ça ne dépend pas de ce qu'elles ont fait, ça ne dépend pas de leur titre. J'aime beaucoup l'évangile de Matthieu qui nous raconte parce qu'il y a l'autre Marie. Tu sais, ça c'est comment te donner aucun titre, tu sais. Il y avait Marie de Magdala, c'est déjà un petit peu un titre, on voit, puis ah ouais, puis l'autre, là, tu sais. Il y a aussi l'autre Marie, on ne prend même pas le temps de nous dire c'est qui cette Marie. Mais ça ne dépend pas de ton titre, ça ne dépend pas de ce que tu as fait, ça ne dépend pas de ton accomplissement, ça ne dépend pas à quel point tu as les bonnes réponses. Tu peux aller vers Jésus, malgré tout. Malgré tout. Puis je crois que ça, c'est une merveilleuse nouvelle. Ça ne dépend pas de tes efforts, ça ne dépend pas de des circonstances. Et le tombeau était scellé, des gardes étaient là, ça ne faisait aucun sens. Mais ça ne dépend pas des circonstances. Tu peux aller vers Jésus malgré tout. Qu'est-ce qui te retient, toi, aujourd'hui, d'aller vers Jésus? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te retient d'aller vers Jésus? Et cette notion d'oser aller vers Jésus malgré tout m'amène à mon deuxième point. Alors que les femmes se rendent au tombeau, malgré tout, le ciel est descendu. Le ciel est descendu. Ça, c'est mon deuxième point. Je vous relis parce que je vois que vous êtes un petit peu hésitant. Verset 2. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre de devant l'ouverture et s'assit dessus. Je ne sais pas si tu réalises, moi, ça m'hallucine, cette histoire. Moi, je lis « La terre a tremblé ». Et moi, je m'arrête un instant. Attends, quoi ? Alors moi, je suis comme ça, je me dis, montre-moi un peu, Seigneur, à quel moment d'autre la terre a tremblé. Puis il y a quelques moments où la Bible nous dit la terre a tremblé. Puis là, c'est assez fou, la terre a tremblé. Puis je me dis, elles ont fait quoi, ces femmes ? Si jamais tu ne connais pas l'histoire de ces femmes, on ne nous dit pas qu'elles ont fait une veillée de prière. Hein. On ne nous dit pas qu'elles étaient dans un jeûne intensif de 40 jours. On ne nous dit même pas qu'elles avaient une stratégie. On nous dit juste... Elles sont allées au tombeau. Et cette foi-là, cette mise en action-là, a suffi à faire que le ciel descende. Elles sont venues et la terre tremble. Et voilà qu'un ange arrive. Et j'aime tellement le détail sur cet ange, surtout chez Matthieu. Encore une fois, il y a quatre évangiles. Chacun des évangiles vous amène des subtilités, des saveurs un peu différentes. Mais chez Matthieu, j'aime trop parce que l'ange, c'est Matthieu, il n'est pas juste venu calme. L'ange, il est venu avec une attitude un peu. C'est un ange, ça doit être mon pote, c'est un peu un gangster cet ange-là. Parce qu'il roule la pierre et après il s'assoit dessus. C'est quoi cette posture-là? Tu sais, nous on imagine des fois les anges un peu comme dans les tableaux. Il y a l'ange, c'est les bras écartés, tout propre et tout ça. Moi j'imagine l'ange avec un hoodie assis sur la pierre. What's up? C'est quoi cette attitude-là? J'ai une fille qui s'appelle Azaya. Cette fille a trop d'attitude. Il y a les beaux jours qui ont commencé à revenir, elle a pris ses lunettes de soleil. Ma fille sait que ça lui va bien, les lunettes de soleil. Tu lui dis, hey, salut Azel, tu regardes tout ça avec les lunettes. Yeah. En plus, elle commençait le breakdance, alors autant te dire, elle comprend que l'attitude, ça fait beaucoup. Moi, j'ai l'impression que cet ange, c'est un ange avec l'attitude. Il vient, il roule la pierre, il s'assoit dessus. Et je crois qu'on rigole un peu de ça, mais imagine la scène. La terre tremble, les gardes sont paniqués, et on nous dit, ils sont tellement paniqués qu'ils sont comme morts. C'est figé. Oh, ils n'arrivent plus à bouger, ils n'arrivent plus à rien dire. Et là, il y a l'ange qui a l'aspect de l'éclair, qui s'est assis sur la pierre pour parler aux femmes. Et c'est comme, pour moi, c'est comme ça que je le lis, hein. C'est juste personnel, mais c'est comme si l'ange, il leur dit, regardez, il est ressuscité. Et plus que ça, il veut faire une déclaration, il veut montrer, vous pensez peut-être que ce n'était pas possible d'entrer, mais regardez, pour Dieu, c'était rien cette histoire. Rouler la pierre, pour Dieu, ce n'était pas un problème en fait. Ressusciter Jésus, pour Dieu, ce n'était pas un problème en fait. Quand le ciel vient, Dieu ouvre des portes qui étaient fermées. Puis j'ai envie de te dire, Dieu est capable de s'asseoir au-dessus de ton problème là. Des fois, nous, on a l'impression de voir des pierres et puis que ce n'est pas possible ou quoi. Puis j'ai envie de te dire, non seulement il peut déplacer la pierre, mais il peut s'asseoir dessus. Puis ça va? Tu veux regarder ce qui se passe à l'intérieur? Viens seulement, il y a une attitude qui est là, j'aime trop ça. Tellement souvent on a les yeux sur nos défis, mais si on pouvait juste un instant enlever les yeux de nos défis, puis voir que le ciel est bien au-dessus de nos défis, bien plus capable que nos défis, c'est celui qui peut résoudre nos défis. Mais très souvent on est figé face à nos défis, on est comme les gardes face à nos défis. C'est pour ça que j'aime trop cet ange avec l'attitude. Quand les femmes sont allées vers Jésus, quand les femmes sont allées vers le tombeau, le ciel est venu vers elles. Et là, il y a une conversation qui est l'élément central de ce chapitre. Je la résume en 5 points. L'ange dit les choses suivantes. N'ayez pas peur. Il a été crucifié. Il est ressuscité. Venez voir où il était. Venez par vous-même voir. Ne croyez pas seulement mes mots. Allez, checker. Et il leur dit la 5e chose. Allez maintenant le dire aux autres. Ça, c'est le résumé en 5 points de ce que l'ange dit aux femmes. Il a été tué, puis ça, mince, mais il est ressuscité. Et si tu regardes et si tu analyses bien, tous ces passages-là, ils sont au passé. Tous ces passages-là, ils sont passés. Il n'est plus dans le tombeau. Allez voir vous-même, il n'est plus là. Il a été là, mais il n'est plus là, c'est fini. Il a été sur la croix, mais il n'est plus sur la croix, c'est fini aussi. Maintenant, il est vivant, vous allez le voir. N'ayez pas peur, allez l'annoncer aux autres. Et ça, je crois que c'est la bonne nouvelle pour nous tous. Ça, c'est le cœur même de ce que c'est Pâques. S'il devait y avoir un micro-trottoir, j'ai lu beaucoup de micro-trottoirs, des micro-trottoirs internationaux, des micro-trottoirs en Europe, des micro-trottoirs en Allemagne, des micro-trottoirs au Canada. Je me dis, il faudrait qu'ils viennent une fois faire un micro-trottoir à Home Lausanne. Puis qu'on nous dise, c'est quoi pour vous Pâques? Puis j'espère qu'ici, plusieurs pourront dire, hé, c'est un scandale, il est mort à notre place. Mais j'aimerais aussi que d'autres disent, mais c'est aussi une grâce. Parce que la mort ne pouvait pas le retenir, il est ressuscité, il n'est plus dans le tombeau, il n'est plus sur la croix, il est à l'action aujourd'hui encore. C'est une grâce. J'aimerais aussi qu'on puisse dire, hé, à cause de Pâques, parce que Pâques, j'ai plus besoin d'être dans la peur, je peux aller annoncer cette bonne nouvelle au monde entier. Ça, c'est Pâques. Et j'aime trop l'ange, comme il résume Pâques, en fait. Assis sur sa pierre. Et ça nous amène à la fin de mon message, le dernier verset qu'on va regarder ensemble, le troisième et dernier mouvement, au verset 8. Elles s'éloignèrent rapidement du tombeau, avec crainte et une grande joie. Et elles coururent porter la bonne nouvelle aux disciples. Je ne sais pas si tu sens l'accélération dans les mots qui sont utilisés. Il y a une accélération dans tout. Je t'ai dit, tu regardes les verbes, tu vois que c'est des verbes de mouvement. Il y a comme quelque chose, il n'y a rien de statique dans cette histoire-là. Mais si tu fais attention, tu vas voir qu'il y a une accélération. Au début, tout semble indiquer qu'elle marchait relativement lentement au tombeau. Elles ne savent pas trop, elles ne savent pas ce qui va se passer au tombeau. Elles y vont, elles sont comme poussées par une foi, par une dévotion pour Jésus, par un amour pour Jésus, par une tristesse de ce qui s'est passé. Tu sais, dans la tradition, on appelle le samedi des cendres. Je ne sais pas si tu sais, c'est un entre-deux extrêmement défiant. Il est mort, on est triste, et puis maintenant c'est le silence aussi. Certains disent ça, c'est le temps de silence. On ne sait pas ce qui va se passer. Puis, alors qu'on les voit marcher au début, elles sont dans ce temps de silence, elles sont dans cette incertitude. Qu'est-ce qui va se passer? On y va. Elles marchent sans doute pas très vite. Puis voilà toute cette scène que j'ai essayé de décrire, qui se passe pour elles, devant elles, et d'un coup, il y a une accélération qui prend place. Et à la fin, quand elles repartent pas du tout au même rythme que comme elles sont arrivées. La Bible nous dit qu'elles sont allées rapidement. Et puis comme c'est indiqué, alors c'est pas spécifiquement précisé, mais c'est presque comme si elles sont rentrées sur Jésus, c'est presque comme si elles ont cogné Jésus alors qu'elles partaient vite. D'un coup, Jésus était là, puis c'est comme, oh, waouh, Jésus est là, puis elle voit à ses pieds, elle l'adore, puis continuez, continuez. Puis tout semble indiquer qu'il y a une accélération ici. Une accélération pour partager la bonne nouvelle. C'est le dernier mouvement que je veux voir avec vous, aller partager la bonne nouvelle. Tu vois, souvent dans nos vies, on s'arrête avant ce point-là. Et si je m'adresse à tous les vieux chrétiens. Alors pour ceux qui ne sont pas habitués à mon langage, quand je dis vieux chrétiens, ça veut dire des chrétiens depuis plus de 6 mois. Je suis en train de réfléchir à faire une série sur les vieux chrétiens. Je vous partage mon cœur un peu, on est entre nous. Je réfléchis de me dire, est-ce qu'on fait une série sur les vieux chrétiens? Parce qu'il y a des contextes où, littéralement, je lisais des missionnaires qui disaient, quand on arrive quelque part, on a 2 semaines. Parce que 2 semaines après, soit on est mis en prison, soit on est tué, soit on est déporté. Et du coup, ils réfléchissent, qu'est-ce qui est fondamental qu'on doit dire en 2 semaines? Parce que 2 semaines après, c'est les autres qui doivent continuer à apporter le message. Et moi, je me dis, nous ici, on est un peu confortables. Hein. Nous ici, on dit, ah, c'est, je découvre encore la Bible, ça fait 18 ans que je suis Jésus. Waouh! Apparemment, il est ressuscité. J'en suis là, dans mon plan de lecture. Je lis 1 livre de la Bible par année. Il y en a 66, alors tu penses, ça va me prendre du temps. Des fois, j'ai envie de vous secouer un peu, nous secouer, moi aussi, un peu, en disant, les amis, on est des vieux chrétiens, on devrait comprendre des choses plus rapidement, s'engager plus rapidement. Et là, souvent, les vieux chrétiens, on s'arrête aux 2 premiers points. Puis on a une attitude qui est belle, une attitude de dévotion, une attitude qui est remarquable, une attitude qui est juste, mais une attitude qui n'est pas complète. Laissez-moi vous expliquer. Souvent, dans nos vies, on s'arrête avec cette réalité. J'étais pécheur, il m'a pardonné. C'est vrai. C'est juste. C'est très bon. C'est important. C'est un point de départ fondamental. Parfois, on s'arrête en tant que chrétien en se disant « Merci Jésus d'être mort à ma place. » Encore une fois, rien de faux à ça. C'est juste. C'est très bon. C'est très important. Parfois, on dit « Seigneur, merci pour ton amour pour moi. » Magnifique, juste, si tu fais cette prière-là, bravo. J'ai aucun problème avec ça, si ce n'est que ce n'est pas complet. Et j'aime le dire comme ça, tu n'es pas la fin de l'histoire. Je ne suis pas la fin de l'histoire. Ce n'est pas seulement à propos de Jésus et toi. Tu vois, si tu regardes les 3 phrases que je viens de te donner comme exemple un petit peu, c'est 3 phrases où en fait le sujet central c'est moi. Puis j'aime ce moment parce que cette accélération c'est maintenant que vous avez compris ça, maintenant que vous avez vu ça, maintenant que je vous ai rappelé, n'ayez pas peur, allez le dire aux autres. Et au passage, si j'avais décidé de faire de ça un séminaire plus long, je vous montrerais comment dans les autres évangiles, c'est aussi rappelé. Là, c'est Matthieu. Puis Matthieu, le verset 19, c'est « Maintenant, allez et faites de toutes les nations des disciples. » Mais si tu prends Jean, par exemple, c'est un de mes évangiles préférés. Jean nous raconte beaucoup de « Après la mort de Jésus ». Puis Jean se termine par une discussion fascinante entre Jésus et Pierre. Et puis Pierre, justement, il est comme bloqué. À chaque fois, Jésus lui dit, « Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» Puis Pierre, il dit, « Bien sûr, tu sais que je t'aime. » Puis Jésus lui dit à chaque fois, « Alors va et prends soin de mes brebis. » C'est jamais juste entre toi et Dieu. C'est jamais seulement pour toi et Dieu. C'est très bien ça, c'est très juste, ça fait complètement partie, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Tu n'es pas la fin de l'histoire, je ne suis pas la fin de l'histoire. On a un mandat. Il y a quelque chose qui se passe avec cette bonne nouvelle. La réalité, c'est que ça ne devrait jamais s'arrêter à nous. Ça devrait, puis c'est ce que j'ai dit au début, nous mettre en mouvement. Les femmes s'éloignaient rapidement. J'aime tellement ça. Des fois, moi, je pense que si j'étais à l'époque, avec les femmes, j'aurais dit, asseyons-nous puis méditons sur ce qui se passe. Prenons un temps de silence. La terre a tremblé. Qu'est-ce que ça peut signifier quand même? Un ange assis avec une attitude incroyable sur la pierre. Regardons toutes les occurrences bibliques où des anges sont apparus. Étudions la chose en détail. N'ayez pas peur. Est-ce qu'on a des peurs dans nos cœurs? Est-ce que toi, tu as des peurs? Tu veux qu'on partage sur nos peurs? Mais les femmes, elles n'ont pas fait ce que Yves aurait fait. Les femmes, elles sont parties rapidement. Rapidement. Il faut qu'on aille dire aux autres, il faut qu'on aille dire ce qui se passe. Cette soirée, elle est trop folle, on n'a pas de temps à perdre. Ce scandale est trop beau et trop important pour qu'il ne nous affecte que nous. C'est un scandale appelé grâce. Combien de personnes autour de moi ont besoin d'entendre parler de cette histoire? Combien de personnes autour de moi ont besoin d'entendre que hey, Jésus t'aime à tel point qu'il est mort sur une croix pour toi afin que tu puisses avoir la vie en abondance et la vie éternelle? C'est un petit cours 101, vous et moi. Commencez par promettre la vie en abondance, ensuite la vie éternelle. Ce n'est pas juste, après tu vas galérer, puis ça va être compliqué, puis tu ne sais pas pourquoi tu es là, puis tu vas attendre le paradis. Non, non, non. La vie en abondance et la vie éternelle. C'est ce qui s'est passé. N'aie pas peur. Pourquoi? Il est vivant, aujourd'hui encore. Il ne nous abandonne pas. Tu vas le trouver alors que tu vas cheminer. Des fois, rien que sur ce passage, j'ai envie de dire aux gens qui disent « je ne trouve pas Dieu », j'ai envie de dire « mets-toi en action. Mets-toi en action, tu vas le trouver. » Quelque chose me dit, puis là je suis extra-biblique, mais pas anti-biblique. Si les femmes étaient restées dans le tombeau, peut-être qu'elles n'auraient jamais rencontré Jésus. Elles n'auraient pas pu avoir la rencontre qui confirmait tout ça. L'ange leur a dit, c'est en Galilée que vous allez le trouver. Des fois, nous on est là, Seigneur, manifeste-toi, manifeste-toi. Puis j'ai envie de te dire, et si Dieu t'attendait juste au corner, juste au coin de la rue? Il pourrait ici. Il n'a pas un problème avec ça, il n'est pas limité avec ça. Mais il dit juste, mets-toi en action. Et alors que tu te mets en action, je vais te montrer que je suis là. Je vais te montrer que tu peux compter sur moi. Ce scandale est trop beau pour ne pas être partagé. Alors toi, qu'est-ce qui te retient de le partager avec le monde qui t'entoure? Et au passage, parce que je vois les yeux de certains, ce que je fais là, ce n'est pas partager la bonne nouvelle au monde qui m'entoure. D'accord? Ce n'est pas un message depuis une plateforme, partager la bonne nouvelle. C'est ta vie dans la vie de quelqu'un d'autre. C'est ma vie dans la vie de quelqu'un d'autre. Là, ce qu'on fait, c'est extrêmement bon. Ça nous motive. Il y a une femme qui avait suivi un groupe de maisons dans notre famille et puis qui avait donné sa vie à Jésus. Elle nous disait ça comme ça. Ça, c'est le moment où tu te branches comme ton téléphone qui se branche. Tu as besoin de recharger tes batteries. Ça, c'est le moment de l'église. Mais ça fait du sens si après tu vas utiliser ce que tu as reçu ici. Donc quand je dis que c'est le temps pour chacun d'entre nous, il ne faut pas s'imaginer « Ah, mais moi, je ne prêche pas bien » ou bien « Je ne sais pas comment étudier la Bible » ou bien « Je n'ai pas les compétences pour parler au micro. » Tant mieux, parce que ce n'est pas ça. Ce n'est pas limité à ça. C'est limité de partager ta vie. Ça signifie, par ton amour pour l'autre, par ton attention auprès de tes proches, par ta façon de travailler sur ta place de travail, par ta façon d'aimer tes voisins, par ta façon de regarder ceux que personne ne regarde. C'est au travers de toutes ces façons-là qu'on va manifester et qu'on va répandre le message de Pâques. Des fois, vu qu'on est entre nous et que j'ai déjà commencé les aveux, je continue. Des fois, je me le rappelle quand je suis dans le bus. Parce que dans le bus, moi, je pense à plein de choses dans ma tête. Je suis des fois sur mon téléphone, je suis tout ça. Et puis je ne fais plus attention aux gens autour de moi. Ne me laissez pas seul. Il y en a d'autres qui comprennent ce que je veux dire ? Ok, merci pour l'honnêteté de quelques-uns. Merci de l'honnêteté de quelques-uns. Et en fait, dans ces moments-là, je me rappelle et je me dis, mais chacune de ces personnes, c'est des gens aimés par Dieu. C'est des gens qui ont été désirés par Dieu. Même la personne juste à côté de moi, qui s'est assise à côté de moi, alors qu'il n'y avait aucune raison de s'asseoir à côté de moi, qui m'a demandé d'enlever mon sac, qui prend beaucoup de place, qui par moments a des odeurs que je ne comprends pas. Cette personne-là aussi est aimée par Dieu, faite par Dieu, désirée par Dieu, un projet pour sa vie. Et du coup, par moment, j'y arrive pas tout le temps, mais par moment, je me dis juste, Yves, il faut que tu te rappelles. Le job, c'est pas prêcher depuis une scène. Le job, c'est d'aimer ton prochain. Le job, c'est de manifester Jésus à ton prochain. Et on est tous là-dedans. Ça n'a rien à voir avec ta fonction à l'église. On est censé, comme ces femmes, aller vite, remplis de crainte et de joie. J'aime trop ça. On va vite, rempli de crainte et de joie. Crainte, pourquoi crainte? Parce que si Dieu a bel et bien vaincu la mort, je crois qu'il est un peu sérieux ce gars-là. On ne devrait pas le prendre à la légère. Ce n'est pas une crainte qui nous fige comme les soldats romains. Hein. Ce n'est pas une crainte qui dit « ah mince ». C'est une crainte de révérence. C'est une crainte qui dit « waouh ». Dieu, ce n'est pas une petite affaire. De nouveau, petit message pour les chrétiens de longue date. Dieu, ce n'est pas la cerise sur le gâteau de ta vie. Dieu, il est censé être l'élément principal qui infiltre toute ta vie. Et trop souvent, on en a fait juste une petite cerise. Ah oui, c'est vrai, le dimanche, si je n'ai pas de brunch, s'il ne fait pas trop beau parce que j'aime bien me balader, si je n'ai pas, ah mais j'ai mon émission préférée puis je n'ai pas pu suivre mon émission préférée, alors je l'ai enregistrée puis je vais la regarder maintenant, n'est-ce pas les fans de Pékin Express? C'est pas ça. C'est pas les 2 heures, 1 heure et demie, pardon, parce que si on fait 2 heures, on est déjà un petit peu exubérant ici. C'est pas les 1 heure et demie du dimanche. C'est l'ensemble de ma vie. C'est ma vie dans mon quotidien, c'est dans toutes les petites choses. C'est ça. C'est pour ça que je le crains, parce qu'il est sérieux. Je lui donne cette place. Je lui laisse cette place dans ma vie, dans une saine révérence. Mais la deuxième des choses, c'est non seulement je le prends au sérieux, mais en plus de ça, je suis rempli de joie. Pourquoi ? Parce que c'est une grâce scandaleuse. Je n'ai jamais mérité ça. Ce n'est pas à cause de moi, ce n'est pas à cause de mon titre, ce n'est pas à cause de ce que je sais, ce n'est pas à cause de ce que je fais, c'est à cause de ce qu'il a voulu lui. Et ça, ça me remplit de joie. Si c'était juste la juste rétribution de mes actions à moi, je n'aurais pas besoin d'avoir de la joie. Petit exemple, cas d'école. Quand tu reçois ton salaire, tu n'as pas une joie particulière envers ton employeur, n'est-ce pas ? Tu n'es pas en train de dire « qu'est-ce qu'il est bon ce mois-ci ? » J'étais dans le doute. J'étais pas sûr. Mais non, tu as un contrat, tu travailles, il te paye. C'est comme ça que ça se passe dans ton travail. Mais des fois, on est comme... Il te doit rien, il ne me doit rien. Le fait qu'il nous donne son amour, le fait qu'il nous donne sa présence, le fait qu'il nous donne de vivre un jour de plus, tout ça, c'est de la grâce. Une grâce scandaleuse, une grâce qui lui a payé sa vie sur la croix. Une grâce pour tout ce qui nous entoure. C'est pour ça que je suis rempli de joie. Je peux dire à mon prochain, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Et honnêtement, ça ne dépend pas de ta capacité à t'asseoir à côté des gens. Tu es vraiment ennuyé en faisant ça. Et pourtant, tu as le droit à la même chose que moi. Je suis rempli de joie de pouvoir te l'annoncer. Fin de l'évangile de Matthieu nous met dans l'ambiance. C'est un chapitre de mouvement parce qu'on est censé être en mouvement. Alors, je fais ça rarement. Mais regarde ton voisin et dis-lui, s'il te plaît, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Mets-toi en mouvement, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Les musiciens, vous pouvez revenir. J'ai envie de vous dire à tous, les amis, ne restons pas dans un tombeau vide. Ne restons pas dans un tombeau vide. Le tombeau est vide. Ne restons pas dans ce tombeau. Ne regardons pas figé à une croix qui est vide. Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Ne reste pas choqué comme les soldats. Jésus a fait ce qui était annoncé. Ne sois pas dans la surintellectualisation qui nous enlise parfois. Il y a un scandale qui s'est appelé grâce, qui s'est passé il y a plus de 2000 ans, qui a ébranlé le monde et qui continue à ébranler le monde. Et tu es invité à participer, à répandre cette bonne nouvelle. Alors ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas.
Merci d'avoir écouté notre message de la semaine. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.eglisome.com.